Payer le mal à tempérament, ça vient de paraître aux éditions Kiro. Et ce livre va être présenté le samedi 12 février 2022 à la librairie Regain à 18h à Reillanne. Et puis surtout, on retient aussi la date du Coustelet où il y aura un véritable événement à partir de 19h le vendredi 18 février prochain chez un certain John Doe Books. On vous en reparlera un peu plus précisément, je pense, à la fin de notre entretien avec Emmanuel Loi autour du livre de Simone Debout, Payer le mal à tempérament, qui vient de paraître aux éditions Kiro. Avec l'éditeur ici présent, avec Emmanuel Loi, je parle de Samuel Autexier et je leur dis tout simplement bonjour.
Bonjour.
Bonjour Emmanuel. Emmanuel Loi, écrivain et qui a fait une préface pour ce livre aux éditions Kiro. Bonjour Samuel.
Bonjour James.
Samuel Autexier.
Bonjour James. Et il a fait plus qu'une préface, Emmanuel Loi, puisqu'il m'a amené ce livre et ce texte de Simone Debout. La première question que je voulais lui poser, c'est ça, c'est comment il a découvert ce texte.
Oui, dans une revue, en 81, sur le cours Mirabeau à Aix, j'ai acheté chez Goulard numéro de cette revue. Je me frottais un peu d'ail psychanalytique à l'époque j'ai été saisi par la qualité 18e-iste du style de cette dame que je ne connaissais pas du tout. C'est une debout, il y a 8 contributions dans ce numéro et une femme comme ça qui parle du Marquis de Sade avec une telle liberté de pensée. J'avais 30 ans à l'époque, ça m'a attiré. C'est un texte pas facile, hein, c'est un texte coriace, d'une femme qui a été résistante dans l'Isère, dans la région de Grenoble, avec son mari, qui a été coordinatrice, plus que porteuse de messages, elle a eu un rôle assez fort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comme c'était le cas de ma propre mère, qui était sous-lieutenant à FAT, qui a été traductrice auprès de Patton, pendant la guerre, en 44 et 45. C'était un peu dans un schéma qui m'a plu. Et voilà, ce texte est extrêmement subversif. Là, je l'ai amené à Samuel.
Pour compléter ce que nous a dit James, Payer le mal à tempérament, c'est une partie du titre, puisque nous y avons rajouté Sur Sade et Fourier, puisque l'ensemble du livre parle des rapports entre Sade et Fourier. Et est-ce que tu peux nous parler d'ailleurs, puisque tu as écrit une note sur ce titre, une note sur le titre.
Oui, tout le monde se paye un costume, a besoin d'alibi pour essayer de sauver la face, hein, par rapport à parfois à l'abandon de ses croyances, à l'abandon de son engagement, quand on en a un. Et payer le mal à tempérament indique que c'est pas parce qu'on ne commet rien, aucune infraction, aucun code de bienséance, qu'on ne sera pas rattrapé. On sera rattrapé par une justice imminente. Donc c'est la notion de mal et de bien est une notion d'éducation. C'est ce qu'en psychanalyse on appelle le surmoi, ou c'est quelque chose qui un encodage qui permet de se supporter les uns les autres, et que la carence parfois d'un comportement ou d'une attitude puisse être comblée par une autre carence à son tour. Donc ce titre qui est étrange, parce que le tempérament renvoie à la façon de payer aussi des échéances. Les loyers, je rappelle que les docks de Marseille, de Dunkerque et du Havre étaient payés des semainiers, et après par quinzaine. La mensualisation date que de 1958. Donc la notion de salaire mensuel est une nouveauté du XXe siècle. Tous les gens qui travaillaient à la tâche étaient payés soit à la semaine, soit à la dizaine, soit à la quinzaine. Et les loyers, pareil, les loyers étaient payés en deux fois. Donc c'est bien de cette archéologie de la mesure du manque que Simone Debout investigue sur un travail passionnant de Charles Fourier, qui est un penseur de l'utopie, un penseur social, un des premiers, avant Pierre Bourdieu, avant Marx, a réinventer le monde en essayant d'analyser, de montrer ses contradictions et d'articuler des issues de sécurité, des voies aériennes pour s'échapper de la contrainte, de la résorption, du cumul des intérêts. Enfin, c'est une œuvre absolument passionnante et méconnue.
J'en profite pour faire juste un petit point sur la période durant laquelle ont vécu ces deux hommes. Un certain Charles Fourier est né le 7 avril 1772 à Besançon. Et un certain Marquis de Sade, le délicieux marquis, le précieux marquis, non, le délicieux marquis.
Divin.
Le divin marquis, ouais. Ouais, j'avais oublié mes classiques. Il est né le 2 juin 1740, simplement pour situer dans le temps. Je pense que c'est important.
Simone de Beauvoir le situe d'ailleurs dès l'entrée de son texte. Elle dit très justement que Sade est avant la Révolution et que Fourier est après, parce que la révolution de 89, la révolution française, est un événement sur lequel ils réagissent tous les deux. Ils sont tous les deux très critiques. Donc, je voulais poser la question de l'actualité, de la pensée de ces deux utopistes, Sade et Fourier, et tu as commencé déjà à y répondre, Emmanuel. Je voulais aussi insister sur ton apport, c'est-à-dire cet apport littéraire sur un texte qui est d'une philosophe, Simone de Beauvoir, mais qui a des qualités littéraires et qui va aussi chercher ses qualités dans l'œuvre de Sade et Fourier, et donc rappeler ton propre trajet à toi. Tu as écrit une trentaine de livres. On ne va pas les citer ici, mais effectivement, ta préface, elle est aussi dans ce chemin, c'est-à-dire qu'elle pose encore, elle ouvre de nouvelles questions, et c'est ça qui m'intéressait, moi, en tant qu'éditeur. Mais pour revenir sur l'actualité de ces deux utopistes, qu'on peut peut-être appeler comme ça, justement, est-ce que tu peux les situer par rapport à leur critique de la Révolution et leur travail, un peu prolonger ce que tu disais tout à l'heure?
Oui. Le terme d'utopiste est un terme journalistique, parce que ce n'est pas leur propre terme qu'on fait. Jamais ça d'envisager qu'il écrivait des utopies, ou qu'il en vivait. Pour Fourier, c'est plus compliqué. Mais ce terme d'utopie, c'est quelque chose qui n'aurait jamais lieu. Utopie, le U comme uchronie, c'est un U qui n'est pas privatif, mais c'est un U qui enlève toute certitude. Donc, ce n'est pas... utopie, c'est le topos, c'est le lieu. Donc, utopie, c'est quelque chose qui n'a pas de lieu. Il y a lieu de le penser, mais il n'y a pas de lieu d'être. Donc, c'est un mot que je n'aime pas. Et je ne pense pas que ni Marx, ni Heidegger, ni qui que ce soit des utopistes. La pensée est un acte. La pensée, comme la parole, comme le fait de parler, comme je vous parle, c'est un acte. Il a pour but plusieurs choses. À la fois d'être libérateur pour la personne qui s'exprime en général, qui essaye d'enlever l'oppression dans le silence des autres, un silence tacite, qui est la reconnaissance de la médiocrité ou de la nullité de l'entendement, et le fait de penser engage la personne. Quelqu'un qui arrive à écrire sa pensée, que ce soit Sade ou Fourier, repris par une dame comme ça, qui a une petite PME, qui pendant 50 ans a travaillé sur Charles Fourier, a republié en 67 les œuvres complètes de quelqu'un qui est encore méconnu. On connaît le nom, tout le monde connaît, on connaît le nom des Fourieristes, mais personne ne l'étudie, ne le lit.
Mais est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle on les appelle des utopistes, aussi bien Sade que Fourier? C'est parce qu'en fait, ils ont quelque part, ils sont visionnaires de ce qui se passe aujourd'hui ou de ce qui s'est passé au XXe siècle.
C'est beaucoup mieux de dire annonciateur et même visionnaire, et beaucoup plus correct qu'utopiste.
Ok. Ouais.
Utopiste, c'est quelque chose, c'est idéaliste. Quand tous les deux, c'est des combattants. C'est très très différent. Non, c'est là où ce terme ne va pas. Hein, ils ont pensé les extrêmes. Tous les deux, c'est deux immenses révolutionnaires, dans la mesure où les mœurs, ce qu'on appelle, ce mot qui est cruel, parce qu'il est question d'une muselière en général, il est question d'une répression organisée. Les mœurs, c'est surtout la longévité de la continuation des inégalités, donc en général. Donc en tant qu'historien des mentalités, moi je ne suis pas qu'écrivain, je suis musicien, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des films, je suis polygraphe, je suis un artiste. Je préfère qu'on parle de moi comme créateur, artiste, comme écrivain. J'écris entre autres, voilà. J'écris quand ça me chante, ou ça. Donc là, ce travail, ce qui me fait plaisir, c'est que 40 ans que je portais ce texte, et je trouvais une oreille, et une âme assez éveillée pour pouvoir faire passer cette pensée de quelqu'un qui est morte à 102 ans, l'année dernière, il y a 18 mois, bientôt 2 ans, et quand c'est une des pensées les plus radicales qu'on ait eues de l'après-guerre, en Europe.
Donc il parle de Simone Debout.
Il parle de Simone Debout, et j'ai une petite question. Je suis le candide du lieu. J'ouvre les micros, j'ouvre les voix pour que vous puissiez vous exprimer librement et de manière claire. Le plus clair possible pour tous les auditeurs et les auditrices de Fréquence Mistral. Une question me taraude. On entend beaucoup parler de Sade, un petit peu comme dans la presse à scandale. Fourier, je ne connaissais pas. Je viens de le découvrir grâce à vous. Il y en a plein qui vont le découvrir grâce à vous. Et puis, ce qui m'amène à poser cette question, que doit-on véritablement connaître de l'œuvre de Sade, mis à part cette réputation sulfureuse de choses qui ne sont pas moralement acceptables par beaucoup d'entre nous ou certains? Bref, chacun a son libre arbitre et peut lire à travers les mots. J'ai une question, Sade, le message véritable de Sade dans son époque, ce serait lequel, selon vous, Emmanuel Loi?
Il n'y en a pas. C'est une nature illisible. Et il n'y en a pas. C'est pas comme ça qu'il faut aborder le sujet. C'est un embrayeur. C'est un bon fouteur de merde, le divin marquis, qui a trahi sa classe sociale. Ils l'ont puni pour ça. Ils l'ont quand même mis 12 ans de citadelle. La Bastille, après Kremlin-Bicêtre, l'asile, les biens confisqués, bannis. C'est quelqu'un qui a enduré toute sa vie la force de ses positions. L'autre aussi, mais la misère, le châtiment que Fourier a enduré est tout à fait différent de Sade. Sade, sa belle-mère, s'est acharnée, la présidente de Montreuil. Sa femme était complice de ses égarements, soi-disant égarements entre guillemets. Mais par contre, la classe d'origine, le marquisat, à Milan déjà, les premiers croisés, premières croisades, il y avait déjà des Sades à Saint-Jean-d'Acre. Donc, vous voyez quelqu'un qui est à la fois puissant, qui est décoiffé, avec un titre, et avant le droit de cuissage, ça a toujours existé dans tous les châteaux, hein, ça, la licence sexuelle, érotique, c'est un fait de classe. Mais lui, il a été très très loin, c'est sans limite. C'est « je jouis de l'autre que je mets à ma merci », et pour faire céder tous les barrages, toutes les inhibitions de la maîtrise du propos sur le corps. Donc c'est quelque chose, c'est en ça qu'il est extrêmement révolutionnaire, le marquis de Sade.
Dans le livre de...
Je repasse la parole à Samuel qui va... J'ai posé cette question pour qu'on puisse comprendre que...
Dans son livre, Simone Debout. Insiste sur plusieurs choses, notamment sur le fait que Fourier s'est affronté à la lecture de Sade. Donc c'est une lecture que tu dis illisible. Moi, je ne serais pas tout à fait d'accord, puisqu'il y a des points, il y a des points d'accroche entre Fourier et Sade qui sont l'étude des passions, la volonté de les libérer et de les sortir de la gangue morale de ce qu'ils appellent les philosophes. C'est-à-dire, et pour parler d'une question qui est extrêmement actuelle, cette fameuse histoire des devoirs, des droits et des devoirs, par exemple, il la ridiculise. Aussi bien Fourier que Sade montrent que ces histoires de devoirs ne sont que des étouffoirs par rapport au potentiel en fait, de liberté de chaque être humain, et que ce potentiel de liberté est beaucoup plus important pour le bonheur de l'humanité que le fait de se restreindre, qui n'est qu'une, comment dire, qu'une une injonction des bonnes mœurs, etc., et qui n'a... Il n'a pas de portée, justement, révolutionnaire. Enfin, ce qui est révolutionnaire, c'est que tous les deux disent qu'il faut faire sauter le bouchon, clairement.
Non,
Tu m'en diras tant, sauter le bouchon.
Non.
Et c'est-à-dire, il faut...
Je ne suis pas tout d'accord avec mon idée, l'éditeur de ce livre. absolument pas du tout. Il a une vision, c'est sa vision, lui, chacun a la sienne. Non, la notion de devoir, elle vient de Montesquieu. Elle vient de l'esprit des lois. Je m'appelle Loi, donc j'en connais un peu un rayon là-dessus. Et Montesquieu défend une position aussi qu'est la mienne. En tant que républicain, on a plus de devoirs que de droits. Voilà. Point barre. C'est même pas discutable. Ça vient de Thucydide, c'est vient de la Rome antique. Le discours libertaire à ce sujet, je trouve décadent, et un peu, voilà, décadent, touchant, décadent. J'aime bien les choses obsolètes, alors allons-y. Voilà, mais je ne suis pas d'accord du tout.
Peut-être, mais ouais, n'empêche que effectivement les deux font sauter avec beaucoup de drôlerie cette histoire de devoir.
Le devoir est essentiel. Quelqu'un qui pense ne pas en avoir, il s'ouvre à bon compte. La fantaisie n'empêche pas, nous avons énormément de devoirs. C'est la responsabilité de chacun. On ne peut pas s'abstenir, son propre jugement ne suffit pas. La subjectivité, l'accord, le plaisir avec le monde ne suffit pas. En tant que matérialiste, il faut décider que des options, que d'avoir. On nous dit qu'on a des options, mais rien de plus contraignant que l'alternative. Le ou bien, comme disait Kierkegaard, c'est la sacralisation de l'ordre. C'est ça. Oh non, il ne faut pas laisser le choix. Là, nous ne sommes pas d'accord, mais c'est bien. C'est bien que ce n'est pas une découverte. Moi, je n'idéalise absolument pas. Ils le font beaucoup de... Autant Fourier et Sade sont battants et actifs, mais la notion de devoir n'est pas une notion punitive,
Mais Sade interroge beaucoup l'idée du crime.
Ah oui. Ah, juste. Mais
quel est le crime? Et donc il interroge et il fait sauter des choses. Je pense qu'effectivement, ses séjours en prison ne sont pas tant liés à ces. Enfin, en tout cas, c'est pas que moi qui pense ça. Maurice Nadeau aussi, qui a écrit un livre sur ça, pense que ce n'est pas ces séjours en prison ne sont pas liés à ces dérives de mœurs, mais beaucoup plus à ce qu'il écrit, qui effectivement est bien plus dérangeant pour la bourgeoisie que ces errements de mœurs.
Et notamment, je voudrais citer, en référence, allez ça se trouve facilement maintenant grâce à Internet, il y a des choses intéressantes sur Internet, la fameuse lettre qu'il envoie en 1775, « Français, votre heure va venir ». Je vous conseille d'aller lire ce courrier qui a dû influencer...
C'est la plus belle chose. C'est sûr que c'est tonique. C'est tonique.
Trahison de classe, tu.
Ah, mais pas uniquement. Tout à l'heure. Pas uniquement. Ça d'être difficile d'accès parce que c'est un peu lassant. C'est pas du tout une lecture érotisante qui développe, qui aspire à un orgasme. Non, non. C'est des livres de guerre. C'est la guerre. Comme Freud. C'est la guerre. C'est la guerre. La guerre dans la pensée, dans les schémas. On ne peut pas du tout considérer que le système de Sade, ce que tu as appelé comme le système de Sade, soit un ouvre des portes. Parce que celui qui ouvre des portes est un geôlier aussi à son tour. On est tous prisonniers et otages de notre conscience. Tous. Donc, il y en a... La venue au monde, l'être au monde, ça implique parfois de capituler sur son arrogance et sur ce qu'on a cru être acquis. Hein. Donc, il n'y a pas de liberté en soi. La liberté, elle est que celle, elle peut être qu'issue d'un mouvement. Il n'y a pas. Voilà. Donc, Fourier, c'est une pensée absolument radicale et somptueuse. Je conseille à tout le monde. C'est pas facile, mais en même temps. C'est très drôle parce que quelqu'un qui a écrit des choses sur la langue, comme la Manavermo, avec des contrepétries, elle a écrit un livre magnifique qui s'appelle Griffe au nez, en trois mots, hein, où elle évoque une partie de l'œuvre de ce grand penseur, ou il débloque à plein tube. Il joue les allitérations, elles sont très souvent jubilatoires et très lacaniennes. Il est un peu aussi fou que Lacan, c'est-à-dire, ou que Francis Blanche, ou Pierre Dac, des gens que j'adore.
En général ou ouais. En colonel.
Bravo.
C'est pour mettre un petit peu de...
Bravo.
De... Je suis Mojica. Animateur, moi, je suis simplement animateur.
Mojica animateur.
Je rappelle que Samuel Autexier, qui est éditeur aux éditions Quiro, est venu ici poser aussi les questions. Vous l'avez remarqué, je ne m'initie pas dans quelque chose que je ne sais pas encore bien faire. Je fais quelques chroniques littéraires, mais sur des bouquins que je connais, que j'ai lus et que j'ai intégrés. Je reviens sur le titre « Payer le mal à tempérament ». Donc Simone Debout, sur Sade et Fourier, elle essaye de décrypter, elle essaye de donner des pistes, parce que c'est une question aujourd'hui qui se pose. Il n'y a pas très longtemps, j'entendais un gourou quelconque qui disait la question du bien, du mal, parce que quand on parle du mal, il y a forcément le bien qui vient s'y opposer. Est-ce que la vie n'est pas une question de bien ou de mal, mais plutôt est-ce que tu veux faire de ta vie une véritable catastrophe ou une véritable félicité? Est-ce que Simone Debout pourrait nous aider à déblayer un peu le terrain pour essayer de faire plus, de tendre plus vers la félicité que vers la catastrophe? Est-ce que ce livre peut aider à ça? Est-ce que ma question est stupide?
Non, mais elle fait partie des dames, des femmes comme Viviane Forrester ou Marguerite Duras ou d'autres, qui ont mené leur vie sans en démordre sur la subversion. J'ai eu la chance de bien connaître Marguerite Duras, que j'étais un jeune écrivain, un jeune auteur qui sortait de prison. Elle m'a fait avoir la première bourse d'aide du CNL en 83. Je l'ai eu en 3 jours. Je l'ai connue quand j'avais 20 ans, à Pézenas, dans l'Hérault, un festival où je l'ai défendu contre la hargne des gens qui refusaient de se laisser emporter par Détruire, dit-elle. C'était un film qu'elle a fait avec Daniel Gélin, en noir et blanc. Son meilleur film, à mon avis. C'était pas tout une cinéaste, hein. C'est un écrivain qui faisait des films. Voilà, j'ai pu en faire 4, moi, dont 2 étaient primés, des moyens-métrages. Je veux m'y remettre un peu au cinéma. Je trouve qu'il n'y a rien sur les écrans. Il faut un peu s'y remettre, quand même. Donc, voilà, elle partage avec ces dames que je viens de citer, Duras, Virginia Woolf, quelqu'un que je vénère, des femmes qui ont le courage de ne pas parler de parité, de similitude, égal-égal, moite-moite, une espèce de naufrage de la mensuétude. Non, elles y vont, elles parlent. Il n'y a pas de dire la femme. Non, elle parle. C'est des êtres humains qui sont sexués comme féminins, mais il n'y a pas. Il n'y a pas de communautarisme. Et là-dessus, c'est ça qui est prodigieux. Parce que.
La question du genre ne se pose pas, du coup.
Ah, oui, là, c'est bon pour le journaliste, la question du genre. La question. Quand on voit maintenant les passeports américains, c'est marqué masculin, sexe ou autre. Et le ou autre. Non, mais, alors, il y a plein qui marquent transgenre, etc. Et maintenant, on a le mot comme impacté, genré, ce n'est pas français. L'Académie française, elle a du mal déjà à faire un corpus intelligible, syntaxique. Genré n'est pas français. Les gens qui l'utilisent ne parlent pas notre langue. Ils parlent une interlangue, une langue du massicot, du massicotage. Non. On n'a pas le neutre comme en allemand, qui vient du latin. On n'a pas 3 genres. On n'a pas le génitif ici. Donc. Moi, je respecte, je suis pour le mariage homosexuel, enfin, surtout le pacte me semblait apparemment suffisant, mais je tolère l'idée d'un mariage, 2 hommes et 2 femmes peuvent s'aimer, même avoir des enfants. Le problème n'est pas là. C'est que normaliser, c'est-à-dire comme un fait banal par rapport à la descendance, la passation des noms, le trafic du nom du père et tout, ça allait vite en besogne. C'est tout. On verra dans plusieurs générations ce qui se passera.
Samuel, je te laisse continuer.
Pour Simone, je pense qu'elle s'inscrit dans une époque. Par exemple, elle a été très enthousiaste de 68, de 1968, de ce qui s'est passé en France et partout dans le monde. Et c'était le moment où elle a publié donc l'ensemble des œuvres de Fourier et un manuscrit inédit qui s'appelle Le Nouveau Monde Amoureux. Et Et ça montre évidemment que c'était pas. Et elle était effectivement très critique, comme peut l'être Annie Lebrun, qui est considérée comme une des plus grandes spécialistes sur Sade, d'un certain féminisme. Effectivement, en tant que femme, elle a une vie exemplaire en tant que résistante, qui quand même donc est assez peu connue. Le livre avec de correspondance avec André Breton révèle quelques éléments de son parcours, mais c'est évidemment des parcours clandestins, donc c'est des parcours quand même qui sont secrets. Mais on le sentait à la voir. Moi, je l'ai rencontrée donc plusieurs fois parce que je l'avais invitée à Fort-Calquier pour venir inaugurer la Maison des métiers du livre, qui est une catastrophe nucléaire, mais dans laquelle j'étais ouvrier. Et je trouvais important qu'il y ait des figures comme Simone Debout qui puissent parler de l'utopie, puisque notre utopie, c'était de développer quelque chose de mutuel au niveau de l'édition. Voilà, j'étais très content de la recevoir. Elle avait 90 ans déjà à l'époque et elle est morte en 10 ans, mais c'est incroyable, tous mes amis sont en train de mourir, moi je n'y arrive pas. C'est quand même dire
le personnage.
Elle se plaignait dans son entourage, mais j'y arrive pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour...
Je rappelle qu'on est en train de parler de Simone Debout, si vous nous rejoignez, Simone Debout qui a écrit « Payer le mal à tempérament sur Sade et Fourier », une présentation qui a été faite par notre ami et écrivain artiste Emmanuel Loi, qui est ici présent dans ce studio et qui est venu un petit peu nous éclairer sur ce que l'on peut trouver comme contenu dans ce livre magnifique. Je rends la parole à Samuel Autexier qui a eu ce joyau de transmis par Emmanuel Loi et qui nous présente évidemment qui est Simone Debout. On a déjà parlé de Sade et de Fourier, on va pas y revenir, on pourra faire des émissions spéciales là-dessus. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et pas de nombreuses choses, on pourra y passer des heures, voire peut-être une vie entière. Payer le mal à tempérament, Simone Debout sur Sade et Fourier, présentation de Emmanuel Loi aux éditions Quiro. Samuel, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus pour qu'on puisse avoir envie de lire ce bouquin ? Parce que c'est quand même ça le but. C'est pour ça que vous êtes là.
Alors, c'est un peu difficile, mais non, c'est je pense qu'il faut se laisser entraîner par la furia d'Emmanuel Loi qui présente de façon effectivement très intéressante le contexte de cet affrontement, de cette découverte aussi pour certains de Sade et de Fourier, de la puissance de leur parole, et se laisser aussi aller à entendre la manière dont, avec un grand brio, Simone Debout donc, fait un travail de philosophe, c'est-à-dire de séparation et de définition des choses.
C'est important de le préciser aux auditrices et aux auditeurs que c'est un travail de philosophe.
Oui, oui. Elle présente les choses et effectivement, elle n'en tire pas des conclusions. Elle les laisse dans leur bouillonnement, dans leur capacité à provoquer chez chacun des réflexions. C'est beaucoup de questions qui sont ouvertes par ce petit livre de 100 pages. C'est ça l'objet de la littérature.
Petite
c'est
pépite de 100 pages avec...
C'est de soulever des questions qui, à mon avis, restent tout à fait actuelles de ces auteurs et de Simone Debout ou du travail d'Emmanuel Loi comme écrivain et philosophe aussi.
C'est un travail de la pensée. Voilà, c'est que... Elle n'est pas simplement philosophe, elle était psychanalyste, enfin férue de psychanalyse, une grande analyse qui a duré une quinzaine d'années, et très férue de linguistique. Ses écrits de linguistique qui ne sont pas encore parus, qui vont paraître, sont magnifiques. C'est quelqu'un qui a une correspondance avec Jacobson, Noam Chomsky, c'est quelqu'un de très en importance, dont dans les 10 ans à venir, nous allons voir l'importance.
Et vous êtes venu justement ouvrir le bal, si j'ose dire, des 10 ans à venir, ouais. Avec... Je le rappelle, cette petite pépite, j'ai lu ce livre, je me permettrai d'en faire une petite critique à mon niveau et à ma portée de ce que j'ai pu ressentir en tant que lecteur et non pas en tant que spécialiste de Sade et Fourier, Dieu m'en garde surtout, mais je reviendrai ce livre à juste je précise que lorsque j'ai lu ce livre, j'étais ému déjà parce que le livre, l'objet est magnifique. Il est fait d'une manière artisanale et la beauté de l'artisanat, c'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié dans ce pays. C'est un livre qu'on ne jette pas, c'est un livre qui doit circuler. C'est comme le pognon et l'amour, ça doit circuler. Simone Debout, Payer le mal à tempérament, sur Sade et Fourier, une présentation d'Emmanuel Loi aux éditions Quiérot. Je rappelle, et peut-être même je vais demander à Sam de rappeler les deux événements de présentation de ce livre, parce que là vous entendez ça à la radio en ce moment, mais on peut rencontrer Emmanuel Loi autour du livre de Simone Debout, et tu nous rappelles les dates et les lieux s'il te plaît.
Oui, donc Emmanuel Loi qui est en résidence à Reillanne depuis un an et demi, deux ans, donc on le présente effectivement à Reillanne à la librairie Regain ce samedi prochain 12 février à 18h. Et on le présente ensuite la semaine d'après, le vendredi 18 février, avec la projection de films, un film sur Simone Debout et un film sur Georges Bataille, chez un petit libraire magnifique qui s'appelle John Doe Books, à Coustelet dans le Vaucluse. Et puisque j'ai le micro, un tout petit peu plus loin, une semaine plus tard, on va le présenter à Mossane, dans une soirée qui est sur invitation, dans un endroit privé, à la suite du Salon des étonnants créateurs, le 26 février à Arles. Donc, en soirée, vous pouvez voir sur le site des éditions Quiérot, nous demander d'être invités pour cette soirée, où il y aura aussi présentation de films et discussion avec Emmanuel Loi sur le livre.
Merci infiniment, Samuel, d'être venu parler de ton livre, on parlera bientôt de ton métier aussi, et on fera aussi un portrait d'Emmanuel Loi. Je pense qu'on a passé un bon moment. Je te laisse le mot de la fin, Emmanuel.
Oui, ben, merci déjà de cette émission. C'est un plaisir de venir à Fréquence Mistral pour la magnifique musique qui nous est mise sur les ondes chaque jour, chaque nuit.
Merci beaucoup.